Les idées alimentaires m'obsédaient. C'était surtout qu'est-ce que je vais manger ce soir et ah, je vais aller faire les courses et puis je vais manger ça, ça, ça. Et puis il n'y avait vraiment plus que la nourriture. Je ne travaillais plus, j'avais plus de contact avec mes amis. Je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Et j'étais tellement triste de m'en rendre compte.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Sortie de mon addiction. Un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'Alexandra, une genevoise de 28 ans, qui a souffert d'une obsession dévorante pour la nourriture.
Enfant, ado, avec mon frère, on avait un placard comme, où il y avait nos 4 heures et tout ce qu'il pouvait y avoir de disponible à manger à la maison. Mes parents n'ont jamais rien caché, on ne nous a jamais interdit de manger telle ou telle chose. J'ai l'impression que j'ai toujours eu un rapport tout à fait normal et sain à la nourriture. On mangeait quand on avait faim, on ne mangeait pas quand on n'avait pas faim. À l'époque, j'étais en train de faire ma maturité professionnelle et c'était quelque chose de super important pour moi. C'était presque une question de vie ou de mort en fait, et j'ai mis toute mon énergie dans cette formation. J'avais une forme de revanche vis-à-vis de moi-même, de mes proches et de la vie en général, de vouloir prouver que je pouvais le faire, que j'étais pas juste une jolie fille, que j'avais aussi un cerveau, et je faisais des cours d'allemand à côté parce que je voulais me présenter à la maturité. Et puis je faisais ces cours de sport, et puis j'étais en couple, bref, je faisais en fait beaucoup de choses, et ça m'a donné une sorte de sentiment un peu de puissance. Je me suis tournée vers une alimentation plus saine, donc j'ai commencé à enlever petit à petit une chose, et puis une autre, de manger plus, par exemple, des légumes, et plus des protéines, et puis un petit peu moins de féculents. Petit à petit, mes portions se sont réduites. Et puis il y a vraiment cette notion du contrôle qui a pris beaucoup de place, c'était, il fallait que je contrôle tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé quitter le boulot en claquant la porte. Je suis arrivée à la maison et je crois que j'avais pas encore mangé à midi, mais bref, j'ai ouvert le frigo et je me suis ruée sur de la nourriture qui était saine. J'avais mangé, je sais plus, mais c'est drôle, je crois que j'avais mangé de la pastèque et un repas en fait super sain et tout, mais avec un tel comportement et un tel stress sous-jacent que j'avais essayé inconsciemment de cacher sous cette nourriture, que juste après avoir mangé, j'ai vomi. Et après avoir vomi, j'ai commencé à pleurer. J'ai été envahie par la peur. J'avais déjà vaguement entendu depuis des années, on a vu de la prévention à l'école sur les troubles alimentaires et tout ça. Donc j'ai appelé mon copain et il m'a dit « faut pas rester seule avec ça, il faut que t'en parles à ta mère. » Ma mère habitait pas ici, elle habitait à Zurich. Donc le lendemain ou le jour même, je sais plus, on a pris le train et je suis allée voir ma mère. Mais j'ai pas été entendue. Ma mère, elle a banalisé, elle a voulu rationaliser, dire « mais non, c'est rien, de toute façon t'es quelqu'un d'anxieux, donc t'inquiète pas, ça va aller, ça arrive à tout le monde, tout va bien. T'en fais pas. » Puis sur le moment, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu ce sentiment d'avoir dit « il y a un truc qui va pas, ok, on me rassure, j'ai fait ma part. » J'ai demandé de l'aide. Et puis ensuite, ça s'est calmé pendant un moment. Je me suis retrouvée de nouveau à l'école, donc je travaillais et je suis retournée dans le milieu scolaire, mais j'avais pas tant d'appréhension que ça. Et là, la problématique s'est posée qu'il fallait manger ensemble, fallait manger avec les gens, et ça m'empêchait de contrôler mon alimentation. Moi, j'avais qu'un soir, c'était de m'isoler, les gens allaient manger au McDo, allaient manger des kebabs ou mangeaient tout et n'importe quoi sur le pouce. Et en fait, moi, là, j'ai commencé à préparer mes Tupperware à la maison et c'était la seule chose qui importait dans ma vie. Parce que tant que je ne savais pas précisément ce que j'allais manger le soir, ce que j'allais manger le lendemain, matin, à midi, matin, c'était OK parce que je mangeais toujours la même chose, c'était rassurant. Mais le soir, là, ça a commencé une sorte de lutte un peu de cachette finalement de comment j'allais pouvoir contrôler mon alimentation, manger ce que je voulais, pas trop, et cacher à mon père que je mangeais de moins en moins, mais sans que ce soit un truc hyper clair dans ma tête non plus, plus préparer mes repas le lendemain. Et là, attention, à cette époque-là, je me suis acheté une balance qui me pesait au gramme et j'ai commencé à peser chacun des aliments qui rentraient dans ma bouche. Si je mangeais un œuf, je pesais l'œuf, je mangeais l'œuf et je déduisais le poids de la coquille et j'avais tellement, j'étais obsédée par tout ça. Je connaissais les calories au 100 grammes de la plupart des aliments de consommation normale. Donc à cette époque-là, évidemment, je mangeais plus de chocolat, plus de, enfin, aucune pâtisserie, aucun dessert, ce genre de choses-là. Et c'était une lutte interne parce qu'en fait, j'adore manger. J'aime manger, j'aime. Et je crois que c'est presque une peur de ça, peut-être aussi, qui a pu mettre en place des comportements comme ça. Il y a eu un moment de bascule. De ce sentiment d'énergie et de force et de puissance, je me suis sentie faible, j'arrivais plus à suivre. Ma tête voulait continuer de faire tout ça, mais mon corps, il n'arrivait plus derrière. J'ai perdu 25 kilos.
Mais est-ce que vous étiez en surpoids avant ?
Non, pas du tout. J'ai jamais été en surpoids. J'ai toujours été à un poids, disons, à l'âge adulte, enfin, entre 18 et 22 ans, où ma maladie s'est déclarée, entre, je dirais, 58 et 60... Ouais, peut-être 56 au plus bas, 60 kilos. C'était mon poids moyen, ce qui est un poids tout à fait normal pour une personne de ma taille, en fait.
Et puis, vous êtes descendue jusqu'à combien ?
À 36 kilos. Et derrière ça, il y avait vraiment cette anxiété qui a fait partie de ce trouble-là aussi, puisque finalement, je pense que la nourriture a été un moyen pour moi de canaliser mes peurs de la vie en général, mes doutes, l'anxiété. Ma gynécologue, à l'époque, a quand même, elle, tiré un peu la sonnette d'alarme, mais sans trop savoir quoi faire non plus, elle m'a quand même obligée à me revoir. Moi, j'avais un discours vis-à-vis de mon père, il savait à quel point c'était un projet important pour moi à l'école. Donc, à des moments, il s'est quand même un peu inquiété, où il m'a dit, voilà, mais... Et je le rassurais en lui disant, écoute, je finis cette année et je m'occupe de moi. Je vais au bout de ça, et après, je prendrai le temps qu'il faut, je vois bien qu'il y a un problème, mais ça va, t'inquiète pas, je gère. J'avais des signes tels que je pouvais plus faire mon lit, parce que j'arrivais à sortir de mon lit, mais soulever ma couette, au poids que je faisais, était devenu quelque chose d'impossible. Je pouvais plus monter des escaliers sans être essoufflée. Je passais une partie de mes journées à réviser, puis l'autre partie obsédée par la nourriture, par comment, voilà, qu'est-ce que j'allais manger le matin, puis qu'est-ce que j'allais manger à midi. Et plus je perdais du poids, et plus les obsessions alimentaires augmentaient. Je voyais que j'avais maigri, mais pas que j'étais squelettique. Et avec le recul, parce que j'ai pris des photos de moi à l'époque, j'ai mieux compris pourquoi les gens me regardaient comme ils me regardaient. Mais moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être... Ouais, qu'on me regardait parce qu'on était jaloux de moi, mais en fait, je faisais peur. Je faisais peur, j'avais plus que la peau sur les os et je me baladais comme ça, en short, en plein été, alors qu'en fait, enfin, vraiment, c'était flippant, quoi. Les photos des enfants qui n'ont pas à manger dans les pays du tiers-monde, mais c'était ça.
À quel moment est-ce que vous avez eu un déclic, l'envie de vous en sortir ?
Et j'ai une copine qui sortait du travail, je lui ai dit « je te ramène », j'étais en voiture. Et elle est venue avec moi en voiture et sur l'autoroute, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à avoir le cœur qui battait plus que de raison, à transpirer et j'étais sur l'autoroute en voiture, donc c'était quand même assez flippant. Et voilà, je suis arrivée à bon port quand même, jusque chez mon père, et il a dû me porter pour sortir de la voiture parce que je ne pouvais plus marcher. Et là, il m'a posée sur le canapé, j'ai fermé les yeux et je ne pouvais plus ouvrir les yeux, j'entendais ce qui se passait autour de moi. Mais je pouvais pas interagir avec les gens. Quand j'ai fini par sortir de ce pseudo-coma dans lequel j'étais, et c'était passé plusieurs heures, je me suis levée, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était qu'il fallait que je range mes affaires. Donc je suis remontée dans ma chambre, et j'ai rangé tous mes habits qui devaient traîner, ou je sais pas quoi, il fallait que tout soit ordonné, rangé, sous contrôle. Cette fois-là, mon père, il devait sortir à un concert avec sa copine de l'époque. Sa copine venait le rejoindre à la maison et elle m'a vue. Et elle était infirmière, elle n'est plus. Elle est à la retraite maintenant. Et quand elle m'a vue, elle a dit à mon père, là, il faut faire quelque chose pour ta fille, elle a un problème. Et elle travaillait au CHUV à l'époque. Elle nous a parlé d'une unité de soins qui se trouve à Pompaple, qui est une unité du CHUV spécialisée, qui s'appelle l'unité ABC. D'un coup, j'ai eu cette pulsion de vie et j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. En fait, dimanche, pas dimanche, je m'en fiche, j'appelle. Donc j'appelle ce médecin et je lui dis maintenant je veux être hospitalisée, c'est bon. J'ai mis un pied dans une clinique où je suis restée pendant 6 mois, sans sortir jamais. C'est une clinique fermée qui est assez dure. Il y a des horaires pour manger, il y a une obligation de finir son assiette. Ce qui, pour une anorexique comme moi à l'époque, c'était un drame. Même si c'était dur, je le faisais. Pour moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est passé de façon régulière. J'ai repris du poids régulièrement et j'ai tout de suite été... j'ai eu des bons résultats, disons.
Quand vous êtes sortie, comment ça a été ? Est-ce que vous avez lâché le contrôle sur la nourriture ? Est-ce que ça a été progressif ?
Pour moi, en tout cas, ça s'est passé par paliers. Le contrôle de restriction que j'avais avant s'est transformé dans un autre contrôle. C'est qu'à ce moment-là, il fallait que ma portion de protéines ressemble à une paume de main. Et puis, il y avait aussi que de manger dans un contexte hospitalier implique de manger à des horaires très précis. Et j'étais devenue totalement rigide là-dessus. Si je ne mangeais pas à 8h00, c'était une crise de nerfs. Ça générait des peurs intenses. C'était une perte de contrôle. Donc il fallait que je mange à 8h, à midi et à 18h. Mais je mangeais avec mon téléphone à côté de moi, je regardais le temps. Puis à la clinique, on mangeait en une demi-heure. Donc j'ai voulu maintenir ce cadre-là parce que ça me rassurait. Et c'est devenu aussi une sorte de moyen de négociation et de manipulation inconsciente. Là où j'osais pas m'affirmer dans la vie en général, j'utilisais la nourriture pour le faire. Non, je ne peux pas venir à tel truc parce que moi, il faut que je mange à 18h. Et c'était comme une ordonnance. Donc, ce n'était pas moi qui étais chiante ou compliquée ou ceci ou cela. C'était mon cadre, ma santé en dépendait. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à bosser dans un emploi super stressant. Et là, j'ai viré dans la compulsion alimentaire. Ça s'est passé pendant plusieurs mois sans que je m'en rende compte, parce qu'en plus, je validais mon comportement par le fait que, comme je venais d'avoir été anorexique, manger librement et manger souvent, voire tout le temps, voire tout et n'importe quoi, c'était positif pour moi. C'était « Ah, mais je suis souple et je suis capable, je fais pas attention, je suis pas dans la restriction, c'est top ». Les idées alimentaires m'obsédaient. C'était surtout qu'est-ce que je vais manger ce soir et je vais aller faire les courses et puis je vais manger ça. Et puis, c'était de contrôler, en tout cas sur la journée, souvent sur le lendemain, voire des fois sur la semaine. C'était un mélange entre la restriction sur le moment et je me ferais plaisir plus tard. Et quand j'aurais fait ça, je mangerais ça. Il y avait un système de récompense aussi. Je dois faire quelque chose de difficile. Après, j'ai le droit de manger un gâteau. Alors, c'était pas dit comme ça dans ma tête, mais c'était quand même bien ce qui se passait. Quand je rentrais le soir, je continuais de bosser et j'avais mon ordi à 1,5 m de mon frigo. Donc, je faisais ce que je devais faire. Puis, toutes les 20 minutes, une demi-heure, je me levais et puis j'allais manger un truc. Et là où, de nouveau, ça a été assez insidieux, c'est que je mangeais pas beaucoup. Je mangeais, une demi-pomme et puis un demi-yaourt. Et puis, je recommençais à bosser. Et puis, je retournais. Et puis, finalement, je mangeais mon repas. J'ai fini par avoir des problèmes de boulimie. Ça n'a pas duré très longtemps, je dirais pendant 2 mois comme ça. Je me suis que fait vomir, ce qui était déjà bien suffisant. Je voyais ma famille un petit peu, plus aucune activité m'intéressait. Il n'y avait vraiment plus que la nourriture. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais seule avec la nourriture et que tout ce qui pouvait venir dans ce couple me dérangeait. Je préférais manger que voir du monde. Ça me faisait beaucoup plus de bien. Et c'est assez terrible. Et c'était hyper triste de me rendre compte. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de finir comme ça. Il y a eu ce truc de... Ça me convient plus. J'en peux plus. J'en peux plus. La nourriture dirige ma vie. Je suis plus en train de vivre. Je mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Et j'étais tellement triste de m'en rendre compte. Et de me dire, mais... je suis émue rien que d'y repenser. Parce que c'était... C'était un enfer. Et je mettais tellement de bonne volonté, j'y arrivais malgré tout pas, quoi. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change ? J'étais toujours prise en charge à la clinique Belmont, mais j'ai demandé à être hospitalisée. Et puis là, je suis restée 6 semaines pour sevrer, en fait, les comportements. C'est à la jonction, en fait, entre la fin de mon hospitalisation que j'ai connu les groupes outre-mangeurs anonymes et puis que j'ai pu entamer ce suivi-là.
Et puis à partir de là, vous avez l'impression que vous avez trouvé une sorte d'équilibre.
Totalement, ouais. À partir des autres mangeurs et puis d'avoir continué mon suivi avec une psychothérapeute, un des groupes essentiels auxquels j'ai assisté pendant plusieurs années, c'est un groupe qui s'appelle Développement de l'attachement sécure. Et ça, ça touche un des aspects pour moi les plus importants de ma thérapie, savoir que je suis une personne capable, valable, aimable, que j'ai des émotions et des compétences. Et que voilà, si on m'a pas aimé suffisamment pour que j'apprenne à m'aimer moi-même, comment est-ce qu'ensuite je vais gérer les choses? Ben, soit je vais m'appuyer sur l'extérieur, soit sur des substances, soit sur des comportements, des produits. J'ai été beaucoup valorisée dans mon entourage par rapport à mon aspect physique. Il y avait un peu comme des rôles qui se sont établis dans ma famille. Mon frère, c'était la tête et le cerveau et celui qui avait fait des études et qui aura un avenir, voilà. Et puis moi, j'étais plutôt la jolie nana. Ben, c'était là que je pouvais me développer. Donc, il fallait entretenir ce corps. Il fallait que ce corps soit parfait. Il fallait que je sois aussi belle que possible et que rien ne dépasse. Par exemple, mon père est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au physique. Une femme doit se tenir correctement. Une femme doit avoir un certain physique. Les gens qui se laissent aller, ça dit tout de suite au niveau social quelque chose d'eux. Et je fonctionnais de cette même manière. Donc j'ai eu ces exigences pour moi-même et ça a fait de moi aussi quelqu'un de très perfectionniste. Ma mère, elle voulait que je sois mannequin quand j'étais ado et c'est clair que c'est un truc à un moment donné où j'étais là, waouh, ce serait trop cool. Et donc il y avait ce truc de t'es très bien, mais c'est vrai que si tu perdais 1 ou 2 kilos, ce serait parfait. J'ai eu une ou deux fois des réflexions du style ah ben, t'as perdu un tout petit peu, ça te va bien hein, quand même. Il y avait un nombre de critères et d'exigences pour avoir le droit de m'aimer. Que mes cheveux soient lisses ou voilà, que ma peau n'ait pas un seul bouton, que j'ai dormi suffisamment, que j'ai bu 2 litres par jour. Enfin, pendant toute mon adolescence, c'était hors de question pour moi de sortir de chez moi pas maquillée. Je voulais aller me chercher un croissant à la boulangerie avec ma meilleure amie, mais je me maquillais, quoi. Sans quoi, j'avais peur de croiser des gens que je connais et de ce qu'ils allaient penser de moi. Je lisais des magazines glamour, enfin différents magazines féminins. Et sans m'en rendre compte, j'ai absorbé toutes ces informations. Il a fallu des années de thérapie pour me rendre compte qu'autre chose existait et que des choses que j'avais pu apprendre n'étaient pas forcément bonnes ou saines pour moi. Et puis assez rapidement, on s'est posé la question, ok, pourquoi une telle importance sur la nourriture? Qu'est-ce qu'il y a comme vide dans ma vie pour que la nourriture soit si importante? Et je dirais que ça, c'est ce qui est encore vrai aujourd'hui. Ce que je peux observer, c'est que plus je suis épanouie dans ma vie, moins la nourriture n'a d'importance. Plus je suis stressée, contrariée ou en prise au doute, plus la nourriture reprend de l'importance parce que c'est une façon de contrôler. Donc voilà, avec les années, le contrôle s'est gentiment dissipé. Je dirais que ça doit faire 2 ans aujourd'hui que ça va mieux, que je peux manger à des horaires pas fixes, où c'est ouvert, où je peux accepter des invitations pour aller au resto. Pour être tout à fait honnête, c'est pas toujours quelque chose de simple. Quand je suis invitée dans un resto, je veux toujours savoir où. Est-ce qu'il y aura quelque chose que j'aime à manger? Manger à 22 h, c'est pas un truc super simple. Il y a eu un moment aussi dans la phase, disons, de guérison, qui est un danger potentiel. C'est à un moment donné, on s'identifie à la maladie et on n'est plus que la personne malade. Et ça peut empêcher d'avancer et de guérir parce que on est cette personne et on s'identifie à tout ce que c'est, mais est-ce que j'existerai encore si je suis plus ça? Et est-ce qu'on m'aimera? Et est-ce qu'on s'occupera de moi si je suis plus malade? Faut oser vouloir être autre chose que ça parce que c'est pas super, quoi. Aujourd'hui, je fonctionne. Il y a plus ce contrôle dans ma vie. J'ai trouvé quelque chose qui marche pour moi, c'est de manger 3 fois par jour. Et de pas manger entre les repas parce que sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est un gain de liberté parce que entre ces 3 espaces où je mange, je me pose pas la question. Et je peux être totalement dévouée à d'autres choses passionnantes dans la vie. Et aujourd'hui, petit à petit, un pas après l'autre, j'ai recommencé à m'intéresser à des activités. J'ai essayé plein de choses, la musique, d'aller à certains concerts, de faire de l'acro-yoga, du yoga, de la danse, le piano. Dans ma thérapie, j'ai découvert la peinture. Je revois beaucoup plus mes amis qu'avant. On organise des soirées, on fait des choses. J'ai recommencé à travailler. J'ai des projets pour l'avenir juste magiques et qui me font rêver. Enfin, et j'ai un copain et voilà. Et donc, tout ça, c'est grâce à. Ouais, suivi thérapeutique que j'ai eu et d'avoir pu m'en sortir en fait. Je pense que c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, que ça en vaut la peine et que j'ai eu vraiment, enfin j'ai une gratitude immense pour toutes les personnes qui m'ont aidée dans ce processus.